Bonjour à tous. Dans 1 Corinthiens 13, 13, nous pouvons lire: en somme, trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. C'est un verset bien connu et on l'aborde généralement en se concentrant sur la plus importante. Mais en le relisant, je me suis demandé quelle était la différence entre la foi et l'espérance. J'ai cherché dans le dictionnaire et voilà ce que j'ai trouvé comme définition pour la foi. Confiance absolue que l'on met en quelqu'un, quelque chose, adhésion totale de l'homme à un idéal qui le dépasse à une croyance religieuse. L'espérance, quant à elle, se définit ainsi: sentiment de confiance en l'avenir qui porte à attendre avec confiance la réalisation de ce que l'on désire. Avoir foi en Dieu, c'est mettre toute sa confiance en lui et croire que ce qu'il dit est vrai pour aujourd'hui. La foi, c'est croire réelle et actuelle les promesses de Dieu pour nous. La foi s'applique à tout ce que l'on veut vivre aujourd'hui, ce que l'on peut vivre aujourd'hui, le pardon et la guérison. Ce ne sont pas des choses que l'on espère, mais bien des choses que l'on peut vivre aujourd'hui. L'espérance, quant à elle, s'applique aux promesses que Dieu nous a faites et qui ne se sont pas encore réalisées. En Romains 8, versets 24 à 25, nous pouvons lire: car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Qui, en effet, continue à espérer ce qu'il voit? Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. L'espérance chrétienne est définie comme une vertu par laquelle les croyants attendent de Dieu avec confiance sa grâce en ce monde et la gloire éternelle dans l'autre. Nous, chrétiens, espérons dans notre salut et dans le retour de Jésus-Christ. Nous espérons dans la venue de la Nouvelle Jérusalem et dans l'avènement du règne de Dieu. Nous ne savons pas quand ou comment ce temps viendra, mais nous l'espérons avec persévérance. Nous espérons en ses promesses de jugement du monde et de vie éternelle dans sa présence. En réalité, il est assez difficile de séparer la foi de l'espérance. Les deux sont liés. Par la foi, nous savons que nous n'espérons pas en vain. En Nombre 23-19, nous pouvons lire: Dieu n'est point homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? La Bible nous montre tout au long de ses pages et de ses histoires que chacune des promesses que Dieu a faites se sont accomplies, les unes après les autres. Dieu avait promis un fils à Abraham et à Sarah, et ils ont eu Isaac. Il avait promis un pays aux Israélites, et ils ont pu entrer dans le pays promis et s'y installer. Dieu avait promis le Messie à travers de nombreux prophètes, et le Messie est venu sur terre pour sauver tout homme qui décide de croire en lui. Aujourd'hui, nous avons foi en Jésus-Christ, car nous savons qu'il est vivant. Nous pouvons le ressentir et lui parler quotidiennement. Mais avant sa venue, les prophètes l'avaient annoncé, et pendant longtemps, les Juifs espéraient en la venue du Messie. Cette espérance a été comblée et elle est devenue réalité en Jésus-Christ. Les apôtres, quant à eux, ont espéré la venue du Saint-Esprit, comme Jésus le leur avait promis. En attendant que cela se réalise, ils n'ont pas perdu courage. Ils avaient espoir que ce que Jésus leur avait annoncé allait arriver. Et tout ce qu'ils avaient pu vivre avec Jésus nourrissait cet espoir. Ils avaient une confiance ferme en ses paroles. Et la venue du Saint-Esprit est passée d'une espérance à une réalité. Réalité qui est encore vraie pour chacun de nous aujourd'hui et qui nourrit notre foi. Dieu accomplit chacune de ses promesses, alors espérons. Au psaume 119, le psalmiste implore Dieu: « Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. » L'espérance est un cadeau de Dieu. L'espérance, selon la Bible, n'a rien de commun avec l'optimisme, qui est un désir du cœur de voir tout ce qui est beau. L'espérance est d'origine divine. C'est une semence déposée dans chaque cœur dès qu'il est né de nouveau. À propos de l'espérance, des philosophes ont dit : quelle est la différence entre le désir et l'espérance ? Le désir est un arbre en feuilles, l'espérance un arbre en fleurs et la jouissance un arbre en fruits. Le désir est une inclinaison du cœur, l'espérance une confiance de l'esprit. Si petite qu'elle soit au début, l'espérance est un principe de vie, une graine divine qui ne doit pas périr. Pour cela, il lui faut les soins et la patience du divin cultivateur. L'espérance doit être soumise aux lois divines qui conduisent toute plante à la maturité. Le chaud, le froid, le jour, la nuit, le soleil et la tempête. Sans le vent de la tempête ou la nuit, la graine ne peut pas s'enraciner profondément et croître. L'espérance se développe et est plus visible dans un sol de difficultés, d'affliction et d'opposition. Le vent le plus violent fortifie ses racines. Les ténèbres les plus profondes la font rayonner d'une clarté plus pure. Sa lumière brille de plus en plus, jusqu'au jour parfait. L'espérance triomphe dans les jours où tout porte au désespoir. Dans les tribulations, l'optimisme s'évanouit, mais l'espérance s'épanouit. Dieu l'a créé pour cela. Comme autrefois, il plaça dans l'étendue des luminaires pour régner sur la nuit. Si l'espérance naît et grandit dans une vie qui reçoit Jésus-Christ, apprend à lui obéir, à le suivre et à le servir, son point d'arrivée sera dans la gloire du ciel. Quelquefois dans la vie, on perd espoir. On n'arrive plus à croire que quelque chose de bien va arriver, qu'il y a encore une raison d'attendre et d'espérer. L'espérance exige de la patience. Il n'y a qu'à regarder la vie de Job. Combien d'années a-t-il passé à essayer de ne pas perdre espoir alors que tout le monde lui disait d'abandonner et que tout son monde s'écroulait autour de lui? Le mal est une réalité sur notre terre. L'humain pêche constamment et le diable a encore du pouvoir dans ce monde. Alors traverser un monde hostile rempli de haine et de souffrance et souvent déstabilisant. Mais ne nous laissons pas décourager. La foi nous fait voir le Christ visible et les choses célestes. Espérer, ça demande de la patience, mais c'est source de bonheur et de joie. Jérémie nous donne ce conseil. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte, il ne cesse point, n'est-ce pas, de porter de fruits. Espérons, mais n'espérons pas dans ce monde. Espérons dans les promesses de Dieu pour nous. Confions-nous à Dieu. Ne perdons pas courage quand l'avenir terrestre nous semble sombre et sans issue. Nous savons que notre Père, Seigneur et Sauveur, notre Guide, notre Conseiller, notre Lumière nous éclairera dans les ténèbres. Et il ne nous abandonnera jamais. Et il nous offre un avenir et une espérance. Tout à l'heure, j'ai rappelé que l'espérance que nous avions s'applique aux promesses en cours d'accomplissement que Dieu nous avait données. De quoi s'agit-il exactement ? Bien, je vous invite à survoler les deux derniers chapitres de la Bible. L'Apocalypse est un livre compliqué et assez imagé. Alors je me suis permis, en espérant ne pas avoir changé le sens, de reformuler quelques passages. pour les rendre un peu moins obscurs. Voici ce que Dieu nous demande d'espérer. Puis Jean vit en vision un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône de Dieu une voix forte qui disait « Maintenant, la maison de Dieu est au milieu des êtres humains. Il va habiter avec eux, ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux et il sera leur Dieu. Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et le roi Jésus, qui était assis sur le trône, dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit à Jean « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et Jésus dit à Jean « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra, l'enfant de Dieu persévérant, qui conserve sa foi dans l'œuvre de la croix, héritera de la bénédiction de la vie dans la Nouvelle Jérusalem. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Puis, un des sept anges, des messagers de Dieu, qui tenait les sept coupes rempli des sept derniers fléaux, vint et dit à Jean, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et le messager transporta Jean en esprit sur une grande et haute montagne. Et il montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Ici commence la description de la nouvelle Jérusalem. Ce passage est un peu long, alors j'ai choisi de l'illustrer avec cette vidéo qui n'est bien sûr pas le reflet exact de la réalité, mais qui permet à ceux qui ont un peu moins d'imagination, comme moi, de comprendre ce passage. La ville est en forme cubique, entourée de grandes murailles, avec 12 portes, chacune creusée dans une perle différente, portant chacune le nom des 12 tribus d'Israël. Les fondements de la ville sont gravés avec les noms des 12 apôtres. De nombreuses pierres précieuses ornent la muraille et les fondements de la ville. La ville est d'or pur, semblable à du verre transparent. Un fleuve d'eau de la vie, limpide comme le cristal, sort du trône de Dieu et de l'agneau au milieu de la place de la ville. Et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Je reprends la lecture. Jean ne vit point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera dans la cité rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. L'arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et les feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu le Père et de l'agneau, Jésus, sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et le nom de Dieu sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront ni de lampe, ni besoin de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et les saints, les résidents de la Nouvelle Jérusalem, régneront au siècle des siècles. Et le messager dit à Jean, ces paroles sont sûres et vraies. Le Seigneur Dieu donne l'Esprit Saint aux prophètes. Il a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voilà la promesse ultime de Dieu, celle que nous devons attendre avec impatience. Tout au long du livre de l'Apocalypse, Dieu nous rappelle que le jugement des forces du mal a déjà commencé, qu'il est en train d'avoir lieu. Dieu a déjà vaincu Satan en Jésus-Christ et il le mettra bientôt complètement hors d'état de nuire. Sa chute est certaine. Il y a aujourd'hui un combat au ciel et sur la terre, mais la victoire est déjà acquise. Ce passage conclut le livre de l'Apocalypse, vision de Jean sur la fin des temps. La fin est belle et nous promet un avenir radieux en la présence de Dieu. Cependant, la lecture de certains passages de l'Apocalypse est dure. Il y a beaucoup d'images de violence et de destruction qui nous semblent bien loin du Dieu de paix que l'on connaît. Mais la fonction première de ces visions est de rappeler aux églises que justice sera faite, que le mal cessera et qu'il ne sera pas éternel. Ces descriptions servent à rassurer l'Église qui doit être préservée et à nourrir notre espérance. L'image de Dieu qui juge est l'image d'un Dieu qui aime sa création et qui ne permet pas qu'elle demeure dans ses ténèbres. L'Apocalypse rappelle également que le jugement appartient à Dieu seul. L'Église est appelée à lui faire confiance et non pas à porter elle-même un jugement sur les choses de ce monde. Le jugement qui est en marche n'est pas de notre responsabilité. Notre rôle est de croire et d'annoncer la venue de ce jugement, et non pas de l'exécuter. Ces visions sont aussi écrites pour rappeler aux chrétiens qu'il est important de se repentir. Le jugement divin ne tombera que sur ceux qui refusent de se repentir, qui refusent de craindre Dieu et de lui demeurer fidèles. Restons en éveil, car Dieu nous appelle encore et encore à rester dans sa lumière. La conversion est un acte unique, mais la repentance doit se pratiquer encore et encore, car bien que lavé par le sang de Jésus-Christ, notre nature humaine nous entache régulièrement. Au verset 11 du chapitre 22 de l'Apocalypse, on peut lire: celui qui est mauvais, qu'il continue à faire le mal. Celui qui aime ce qui est impur, qu'il continue à aimer ce qui est impur. Mais celui qui est bon, qu'il continue à faire le bien. Et celui qui vit pour Dieu, qu'il continue à vivre pour Dieu. Ce commandement n'est pas une invitation au péché, mais plutôt une invitation à se décider. Le lecteur doit se décider en ce qui concerne sa destinée éternelle. Il se reçoit avec ou sans Dieu. N'ayons pas peur. Dieu est plus qu'enclin à nous pardonner. Il nous aime et il attend simplement que nous venions à lui. Alors, si nous gardons nos yeux fixés sur lui et notre foi ferme en lui, nous pourrons continuer d'espérer pouvoir entrer dans la nouvelle Jérusalem. Quelle merveilleuse promesse ! Passer l'éternité en la présence de notre Dieu. La nouvelle création sera belle. Plus que belle, elle sera impressionnante de beauté. Dans ces deux chapitres, on peut découvrir un monde où tout est beau, tout va mieux, tout va bien, tout est parfait. Elle reflète la gloire de Dieu, gloire qui sera tellement éblouissante qu'il n'y aura plus besoin du soleil et de la lune. La nuit n'existera plus, car la gloire de Dieu sera constamment avec nous. Dans cette cité, Dieu sera présent et accessible à tous les habitants. Les portes ne seront pas fermées, car sur terre nous fermons les portes en guise de protection contre le danger. Mais dans la nouvelle cité, le péché n'existera plus. La fermeture des portes sera inutile. La description que Jean fait prend le temps de mentionner tout ce qui sera absent. La mer, qui est symbole de chaos et du mal. La mort, les larmes, le deuil, les cris, la douleur, les malédictions, tout sera pur, tout sera en paix. L'harmonie sera rétablie, tout ce qui existe sera renouvelé, transformé. La nouvelle Jérusalem n'aura pas de temple, pas de lieu réservé à la présence de Dieu. Car le saint n'aura plus jamais besoin d'un temple comme ceux de l'ancienne alliance pour accéder à Dieu. Dieu sera accessible, car dans la Nouvelle Jérusalem, il habite littéralement avec les hommes. Voici l'espérance chrétienne dans toute sa splendeur. Alors que les chrétiens peuvent souffrir dans ce monde présent, face à la persécution et au malheur de la vie terrestre, le message de l'Apocalypse est un avenir qui sera tout autre. La victoire finale arrive. La paix totale et parfaite sera établie dans la Nouvelle Jérusalem. Pour conclure, je souhaite lire les derniers versets de la parole de Dieu. Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Et l'esprit et l'épouse qui est l'église disent « Viens !» Et que celui qui entende dise « Viens !» Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne gratuitement l'eau de la vie. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. » Amen. Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous.